Bonsoir. Donc on va continuer. J'ai voulu continuer sur la loi dans l'Ancien Testament parce que je pense que c'est important au moins de faire le tour et j'ai constaté qu'on ne prend pas toujours le temps de lire ces choses-là et on va quand même le faire ce soir. Comme Hélène l'a évoqué ce dimanche, Dieu s'ajuste à l'homme selon son contexte afin que l'homme puisse découvrir le vrai Dieu. Hein? Dieu dans toute sa dimension, vous savez que c'est une difficulté, c'est de découvrir qui est Dieu. Je veux dire, ça n'apparaît pas comme ça. Il faut passer du temps, il faut chercher, il faut approfondir. Et c'est la réalité que Dieu a de vouloir effectivement nous amener à lui. Mais pour ça, il vient vers nous. Et la loi a été un des éléments qui lui a permis de s'approcher de nous et de nous permettre, nous, de nous approcher de lui un peu. Et donc, je voudrais qu'on aille plus loin dans cette découverte. Et les lois que nous allons découvrir ce soir sont peut-être dures. J'ai une question. Sont-elles injustes? Je ne répondrai pas. Je vous laisserai simplement écouter rapidement. Je vais essayer de passer assez rapidement ce soir sur tous ces éléments-là. Mais je vous invite à prendre du temps et repenser à ça, juste avec cette option que ça vient de Dieu. Alors, avec la loi, on voit qu'il y a des sanctions. Bon, juste une petite précision, s'il n'y avait pas de sanctions, à quoi servirait-il de mettre en place des lois? Pourquoi? Parce que les sanctions sont là, parce que naturellement, l'homme n'a pas tendance à obéir totalement, et il pourrait pas voir les bénédictions que Dieu veut donner à l'homme à travers l'application des lois dans sa vie. On comprend que quand on marche avec Dieu, on a plus de chances d'être béni que quand on ne marche pas avec Dieu. Tout le monde le comprend. Et il y a une réalité à ça, c'est qu'il y a une façon de marcher. Dieu veut nous faire comprendre qu'il y a une façon de marcher. Ça va plus loin lorsqu'on rencontre Jésus, mais je voudrais qu'on aborde cette notion simplement déjà avec la mentalité de cette époque-là, où il y avait des choses à respecter. On ne connaissait pas Dieu, on ne savait pas qui était Dieu, on ne savait pas ce que voulait Dieu, comment Dieu voulait qu'on marche, et il a donné des éléments pour cela. Alors effectivement, il y avait quelques éléments de loi de vie en société. Je vous invite à ouvrir dans Exode au chapitre 21, au verset 1. On lira jusqu'au chapitre 23, verset 19. Je vais m'arrêter entre-temps, hein. De façon à ne pas trop vous submerger. Je vais commencer le temps où vous allez trouver les passages. Je répète, Exode 21, comme c'est marqué, Exode, chapitre 21, versets 1 à 11. Déjà versets 1 à 6, « Ce sont ici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est venu seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si son maître lui donne une femme et qu'elle enfante des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront au maître et il sortira seul. » Que si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants et je ne veux pas sortir pour être libre », alors son maître l'amènera devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et il le servira pour toujours. Si quelqu'un vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui se l'était destiné, il la fera racheter. Il n'aura point le pouvoir de la vendre à un peuple étranger après l'avoir trompée. Mais s'il la destine à son fils, il fera pour elle selon le droit des filles. S'il en prend une autre, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements, ni à la cohabitation. Et s'il ne lui fait pas ces trois choses, elle sortira gratuitement, sans argent. On ne va pas commenter en détail tous ces éléments-là, parce qu'il y a des éléments qui ne nous concernent plus vraiment directement. Quoique, dans notre société, l'état d'esclave existe encore. Mais on n'est pas toujours, nous, confrontés directement à cet état de choses. Mais néanmoins, on s'aperçoit qu'il y a quand même une réalité derrière ça qui est intéressante. Esclave pendant 6 ans, libre la 7e année. Ça, c'est quand même quelque chose. Dans la façon dont Dieu voit les choses, on s'aperçoit quand même qu'il vise à protéger les gens dans leur situation, selon le contexte dans lequel ils vivent. Et il veut les amener effectivement à une certaine liberté. Il n'intervient pas dans le choix des gens directement parce que les gens peuvent rester au service de leur maître. Parce qu'il y a des maîtres qui sont très bons. Et que quelquefois, rester au service du maître, c'est une bonne chose. Mais ça, c'est à chacun de choisir. Dieu donne le choix, laisse le choix. Et c'est quelque chose, mais rappelez-vous, c'est toujours lié au contexte. Et c'est dans ce contexte-là que ça fonctionne. Mais néanmoins, il y a quand même un état d'esprit derrière, il y a une façon de voir derrière, il y a un respect de la personne derrière, malgré tout, parce que nous, on a une opinion péjorative de tout ce qui est esclave, mais Dieu ne voit pas les choses de cette même façon. Il a une façon de voir les maîtres aussi. Et je crois que c'est ça qui intervient aussi, qui fait qu'effectivement, ce n'est pas aussi catégorisé que chez nous dans notre esprit. Ensuite, il dira une chose dans Exode au chapitre 21, versets 12 à 14. Celui qui frappe un homme à mort sera puni de mort. Que s'il ne lui a point dressé d'embûche, mais que Dieu l'ait fait se rencontrer sous sa main, je t'établirai un lieu où il se réfugiera. Mais si quelqu'un s'est élevé contre ce prochain pour le tuer par ruse, tu le prendras même d'auprès de mon autel afin qu'il meure. Dieu fait régner sa justice. Il demande à ce qu'on fasse régner sa justice. Mais malgré tout, il y a quand même, je veux dire, il peut y avoir un phénomène accidentel dans l'agression, etc. Et il prévoit des lieux de refuge. Je ne m'attarderai pas sur cela. Vous pourrez approfondir dans la Bible si vous le désirez. Mais effectivement, il y a des lieux de refuge pour protéger les gens qui, effectivement, auraient tué accidentellement quelqu'un, en tout cas pas prévu. Et de façon à ce qu'une justice puisse s'exercer, un jugement puisse s'exercer. Mais si ça a été volontaire, même si la personne se réfugie près de l'autel pour être protégée par Dieu, ça ne lui servira pas de protection. On ne peut pas toujours mettre Dieu en avant quand on fait des bêtises. Je crois que ça aussi, c'est une conscience qui doit être importante. Celui qui frappe son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui dérobe un homme et le vend, et celui entre les mains duquel il est trouvé, sera puni de mort. Celui qui maudit son père et sa mère sera puni de mort. On voit bien ici que Dieu veut que les parents soient respectés. C'est un fondement de la société voulue par Dieu, que les parents soient respectés. La perte de ce respect entraîne la décomposition de la société. Nous le voyons autour de nous. Nous voyons toutes les difficultés que ça amène. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, effectivement, met des éléments qui sont importants à comprendre, c'est que derrière, il y a la mort. Et maudire son père ou sa mère, ce n'est pas bon. Vous savez, quelquefois, on a des choses qu'on doit régler. Hein, des choses avec ses parents, des pardons à apporter. Peut-être on a dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire, pensé des choses qu'on n'aurait pas dû penser. Peut-être il y a des choses à régler. C'est à méditer aussi, selon ce que voit le Seigneur. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut mettre à plat et que tout soit clair. Vis-à-vis d'autrui, il est écrit dans Exode suivant, quand des hommes se querelleront et que l'un frappera l'autre d'une pierre ou du poing de telle sorte qu'il n'en meure pas, mais qu'il soit obligé de se mettre au lit. S'il se lève et marche dehors appuyé sur son bâton, celui qui l'aura frappé sera absous. Seulement, il paiera son chômage et le fera guérir entièrement. Il y a des dédommagements quand on agresse quelqu'un, qu'on fait du mal à quelqu'un. Ça existait déjà. Quand un homme frappera son serviteur ou sa servante avec le bâton et qu'ils mourront sous sa main, il ne manquera pas d'être puni. Après, il y a une subtilité qui suit, qui, moi, m'a surpris. Mais s'il survive un jour ou deux, il ne sera pas puni, car c'est son argent. On ne développera pas ce côté-là. Je vous laisserai méditer vous-même. Si des hommes se battent et frappent une femme enceinte et qu'elle en accouche sans qu'il arrive malheur, celui qui l'aura frappé sera condamné à l'amende que le mari de la femme lui imposera. Et il la donnera devant des juges. Mais s'il arrive malheur, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure. Et si quelqu'un frappe l'œil de son serviteur ou l'œil de sa servante et le gâte, et leur gâte, il les laissera aller libres pour leur œil, que s'il fait tomber une dent à son serviteur ou sa servante, il les laissera aller libres pour leur dent. Je vais aller rapidement, je veux dire, on voit quand même que malgré tout, il faut ménager ses serviteurs. Si on leur abîme un œil, une dent, il faut les laisser libres après. Ils ne servent plus à rien directement. Donc, il y a quand même des réalités derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si on regarde par rapport à nous, tout acte de notre part entraîne des conséquences qui peuvent devenir dramatiques. Ça, c'est une réalité des lois. Hein? Et s'il n'y a pas cette réalité-là, nous, qui avons tendance quand même à vivre d'une façon un peu centrée sur nous-mêmes et à essayer de se servir le plus possible et contourner les lois, eh bien, on y réfléchit à deux fois. Par rapport à un animal, et si un bœuf heurte de sa corne un homme ou une femme et qui en meurt, le bœuf sera lapidé. Et l'on ne mangera point sa chair. Et le maître du bœuf sera absous. Mais si, et c'est là que c'est intéressant, mais si auparavant le bœuf avait été accoutumé de heurter de sa corne et que son maître en avait été averti et qu'il ne l'ait point surveillé et qu'il tue un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé et son maître aussi sera mis à mort. Si on lui impose un prix pour se racheter, il donnera en rançon de sa vie tout ce qui lui sera imposé. Vous savez, la notion, ce n'est pas ma faute. Hein? Mais non, notre responsabilité comprend nos possessions et nous devons veiller à cela. Je pense quelquefois, on devrait réfléchir un peu à ce genre de choses. Il y a des conséquences quand on ne fait pas attention à ce qui est à nous et qui a fait du tort à d'autres. Ensuite, il y a le vol. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et le tue ou le vend, Il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Il ne faut pas se faire prendre. Hein. Si le larron est trouvé faisant effraction et est frappé à mort, celui qui l'aura frappé ne sera point coupable de meurtre. Mais si le soleil était levé sur lui, il sera coupable de meurtre. Donc tu tues quelqu'un en plein jour. Le voleur fera donc restitution. S'il n'a pas de quoi, il sera vendu pour son vol. Si ce qui a été dérobé est trouvé vivant entre ses mains, soit bœuf, soit âne, soit agneau, il rendra le double. L'atteinte au bien d'autrui est inadmissible. Aucune excuse ne peut la justifier. Dans d'autres éléments, la suite sur des relations peut-être un peu plus intime, si quelqu'un suborne une vierge qui n'était point fiancée et couche avec elle, il faudra qu'il paie sa dot et la prenne pour femme. Si le père de la fille refuse absolument de la lui donner, il lui paiera de l'argent qu'on donne pour la dot des vierges. Tu ne laisseras point vivre la sorcière, quiconque couchera avec une bête sera puni de mort. Le corps n'est pas un objet avec lequel on peut faire n'importe quoi. Dieu veut qu'il soit respecté. Celui qui sacrifie à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Bon, je souris, hein, mais c'est quand même... C'est clair et net. Hein? C'est clair et net. Bon, maintenant, j'ai une question. Est-ce que c'est injuste? Dieu défend qui il est, c'est-à-dire le seul Dieu. Et il le défend pour son peuple. Pourquoi ? Ben parce que c'est la vérité. Si Dieu ne défend pas ce qui est la vérité, ça veut dire qu'il accepte le mensonge. Si Dieu accepte le mensonge, on a un problème. Plus loin, il dira, tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Vous n'affligerez aucune veuve ni aucun orphelin. Si tu les affliges et qu'ils crient à moi, certainement j'entendrai leurs cris et ma colère s'enflammera et je vous tuerai par l'épée et vos femmes seront veuves et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au malheureux qui est avec toi, tu n'agiras point avec lui comme un usurier. Vous ne lui imposerez point d'intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant que le soleil soit couché, car c'est sa seule couverture, c'est son vêtement pour couvrir sa peau. Dans quoi coucherait-il? Et s'il arrive qu'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Dieu présente bien le respect de l'étranger. Bienvenue à un grand nombre d'entre vous. Et le respect du pauvre. Ne pas abuser de leur situation de faiblesse pour son propre profit. Dieu veille que justice soit faite. Ensuite, il est dit ceci, tu ne blasphémeras point Dieu et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Respecter le nom de Dieu en parole, c'est quelque chose qui est important. Ne pas utiliser le nom de Dieu en tort et à travers. Ne pas maudire celui qui dirige dans son pays. Il y a certainement quelque chose à méditer sur la façon dont nous parlons de nos dirigeants. Veillons, veillons, veillons. Peut-être vous allez dire, oui, mais ils ne font pas ce qu'il faut. Comment vous savez qu'ils ne font pas ce qu'il faut? Si vous étiez à leur place, vous feriez quoi? Je crois qu'il faut faire attention. Dieu permet qu'il y ait des gens qui dirigent. Bien sûr, on doit veiller et défendre l'orphelin et le pauvre et la veuve, mais on doit respecter les autorités. On le retrouve partout. Les dons à Dieu, tu ne différeras point le tribut de ce qui remplit ton grenier et de ce qui découle de ton pressoir. Tu me donneras le premier-né de tes fils, tu en feras de même de ton bœuf et de tes brebis. Leur premier-né sera 7 jours avec sa mère ou jusqu'au 8e jour, tu me le donneras après. Vous me serez des hommes saints, vous ne mangerez point de chair déchirée aux champs par les bêtes sauvages, vous la jetterez aux chiens. Dieu doit être servi en premier dans notre vie. Évitons qu'il soit celui à qui on donne ce qu'il reste à la fin du mois, s'il reste quelque chose. En plus, si vous le donnez à la fin du mois et qu'il vous bénit pour le reste du mois, vous ne serez pas béni. Parce que c'est la fin du mois. Tu ne sèmeras point de faux bruits, ne prête point la main aux méchants pour être faux témoin. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et lorsque tu témoigneras dans un procès, tu ne te détourneras point pour suivre le plus grand nombre et pervertir le droit. Tu ne favoriseras point le pauvre en son procès. La fin caractérise aussi une chose, c'est que Dieu ne fait exception de personne. Riche, pauvre, ni riche ni pauvre, tout le monde doit être traité pareil. Mais il dit aussi que le mensonge n'a aucune place justifiable dans la vie. Et que la loi du plus grand nombre n'est pas synonyme de vérité. Ce n'est pas parce que tout le monde dit quelque chose et qu'on est tenté de les suivre et d'être d'accord avec eux qu'on risque d'être dans la vérité. On peut être dans le mensonge. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu ne manqueras point de le lui ramener. Si tu vois l'âne de celui qui te hait abattu sous son fardeau, tu te garderas de l'abandonner, tu devras le dégager avec lui. Tu ne pervertiras point dans son procès le droit de l'indigent qui est au milieu de toi. Tu t'éloigneras de toute parole fausse, et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je ne justifierai point le méchant. Tu n'accepteras point de présent, car le présent aveugle les plus éclairés et perd les causes des justes. Tu n'opprimeras point l'étranger, vous savez vous-même ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Toujours ne pas profiter du malheur des autres, ni même de son ennemi, hein? Ni même de la personne qui vous hait. Vous n'allez pas lui rendre œil pour œil, dent pour dent, etc. C'est dit ici, on rend service. Hein? Et ça, c'est quelque chose, on ne laisse pas souffrir des animaux sous prétexte qu'ils appartiennent à quelqu'un qu'on n'aime pas, ou à quelqu'un qui nous fait du mal. On ne fait pas de faux témoignages, c'est évident. On ne se laisse pas soudoyer non plus. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Les gens qui vous font des cadeaux et qui attendent en retour que vous fassiez des cadeaux. Mais pas obligatoirement des cadeaux qui vous plairaient de faire. Il est dit ensuite, « Pendant 6 années, tu sèmeras la terre et tu en recueilleras le produit, mais la 7e, tu la mettras en jachère et la laisseras se reposer. Et les pauvres de ton peuple en mangeront les fruits. Et les animaux des champs mangeront ce qui restera. Tu en feras de même de ta vigne et de tes oliviers. » Je ne commente pas, je commenterai un petit peu plus loin tout à l'heure cet aspect-là. Ensuite, il est dit ceci, « 6 jours durant, tu feras ton ouvrage. » Mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf, ton âne, se repose et que le fils de ta servante et l'étranger reprennent des forces. Je ne commande pas. 3 fois dans l'année, tu me célébreras une fête. Tu observeras la fête des pains sans levain. Tu mangeras des pains sans levain pendant 7 jours, comme je l'ai commandé à l'époque du mois des épis, car c'est en ce mois-là que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point vite devant ma face. Et la fête des moissons, des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé au champ, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu auras recueilli des champs les fruits de ton travail. À nouveau, tu n'offriras point avec du pain levé le sang de non-sacrifice, de mon sacrifice et la graisse de ma fête ne passera point la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras les prémices des premiers fruits de la terre à la maison de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras point cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Dans toutes ces lois, il y a une place prépondérante de Dieu. Il est le centre, il est la référence. Et c'est quelque chose qui est important. Maintenant, je voudrais aborder dans Lévitique au chapitre 25 les années sabbatiques et un peu plus loin le jubilé. Les années sabbatiques, c'est tous les 7 ans. Dans Lévitique au chapitre 25, au verset 3 à 7, il est dit ceci. « Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ et pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. » Et la 7e année, il y aura repos, repos complet pour la terre, un sabbat de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui pousse de soi-même, de ta moisson précédente, et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Et le produit de ce repos de la terre vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur, à ta servante, à ton mercenaire, à ton étranger qui demeure avec toi. Pour ton bétail aussi, pour les animaux qui sont dans ton pays, tout son produit leur servira de nourriture. Il y a dans cette demande de la part de Dieu une forme de bénédiction. C'est qu'il y aura la 7e année tout ce qu'il faut pour manger. En même temps, il y a quelque chose qui paraît peut-être évident pour chacun d'entre nous, mais pas toujours évident dans ce monde. C'est bon pour la terre. C'est bienfaisant pour les gens et les pauvres en particulier. Et ça donne la prise de conscience que la terre appartient à Dieu. Alors cela nécessite une voix vivante en Dieu, pas une conception théorique. Sinon, au moment de la 7e année, on a des doutes. Mais il y a autre chose. Dans Deutéronome, chapitre 15, au verset 1 à 2, 4 à 5, 7, 8, 10, 11, Bible du semeur, je vous les lis. Tous les 7 ans, vous remettrez les dettes. J'aime bien cette idée quand même. Voici ce qui concerne cette remise des dettes. Lorsque l'année de la remise aura été proclamée en l'honneur de l'Éternel, tout créancier remettra la dette contractée envers lui par son prochain qui est son compatriote, sans rien exiger de lui. Un peu plus loin, au verset 4, il est dit ceci: En fait, il ne doit pas y avoir de pauvres parmi vous, car l'Éternel, votre Dieu, veut vous combler de bénédictions dans le pays qu'il vous donne comme patrimoine foncier pour que vous en preniez possession. À condition toutefois que vous l'écoutiez pour obéir à tous les commandements que je vous transmets aujourd'hui pour les appliquer. Un peu plus loin, verset 7, si l'un de tes compatriotes tombe dans la pauvreté, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu ne lui fermeras pas ton cœur et tu ne lui refuseras pas ton aide, au contraire, tu lui ouvriras ta main toute grande et tu lui prêteras suffisamment selon ses besoins. Et même juste avant la septième année, tu le feras aussi. Pourquoi? Parce que juste avant la septième année, il n'y a qu'un an pour retomber sur ses pattes. Mais Dieu ne s'occupe pas de ça. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui pourvoit. Donne-lui généreusement et non pas contre cœur. Et pour cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras et dans tout ce que tu entreprendras. En fait, il y aura toujours des nécessiteux dans le pays. C'est pourquoi je t'ordonne d'ouvrir toute grande ta main à ton compatriote, aux malheureux et aux pauvres dans ton pays. Dieu ne veut pas que la pauvreté soit une condamnation irrémédiable, que quelqu'un soit coincé dans la pauvreté, mais que chacun ait une occasion de redémarrer sa vie et de vivre mieux. Il veut que nous prenions en compte cette volonté qu'il a de nous voir généreux comme lui l'est. Ensuite, il y a l'année du jubilé, qui est 7 fois 7 ans, au bout de 7 fois 7 ans, ce qui fait environ 49 ans. C'est dans Lévitique, au chapitre 25, au verset 8 à 12, « Et tu compteras 7 semaines d'année, 7 fois 7 ans, et ces 7 semaines d'année te feront une période de 49 ans. » Et au septième mois, le 10 du mois, tu feras retentir le son de la trompette au jour des expiations. Vous ferez passer la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 150e année et vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous un jubilé. Vous rentrerez chacun dans sa propriété et vous rentrerez chacun dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point le produit de cette année et vous n'en vendangerez point le fruit venu de lui-même, car c'est le jubilé, il vous sera sacré. Vous en mangerez le produit en le prenant au champ. La 50e année, on remet tout à zéro, on se repose, on laisse la terre se reposer et on repart. C'est pas mal quand même, hein? Si on faisait ça. Dieu pourvoit. L'inquiétude de ne pas avoir de récolte pendant 3 ans pourrait gagner le peuple. 3 ans parce que l'année 49 est une année sabbatique. Donc on ne mange pas ce qui... On moissonne pas, on mange que ce qui pousse tout seul normalement. Mais en fait, Dieu pourvoyait pour 3 ans à la récolte de fin 48. Soit donc pour nourrir pendant les années 49, l'année 50 et l'année 51. Et à la fin de l'année 50, on semait à nouveau pour la récolte de 51 qui nourrirait l'année 52. Et dans Lévitique donc 25 du verset 20 au verset 22, il est dit ceci, que si vous dites, que mangerons-nous la septième année? Voici, nous n'aurons pas semé et nous ne ferons pas notre récolte. Dieu répond, « Je vous enverrai ma bénédiction la 6e année et elle donnera une récolte pour 3 ans. Et vous semerez la 8e année et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année, jusqu'à ce que les récoltes soient venues, vous mangerez de l'ancienne. » Dieu veut nous amener à ne pas nous inquiéter quand on regarde à la réalité qui est la nôtre. Pourquoi? Parce que Dieu pourvoit. Mais nous devons, nous, pour cela, garder en tête que Dieu pourvoit. Voyez-vous, on traverse tous dans notre vie, à un moment donné, des moments où il n'y a pas d'issue. Des moments où il n'y a rien devant soi, où on ne sait pas comment les choses peuvent se régler, parce qu'on n'a aucun moyen de les régler. Et que le peu de moyens qu'on a pour régler les choses, on sait que ça mène nulle part. On sait que le monde attend qu'on les utilise, mais on sait que ça mène nulle part. On sait que même si on utilise ces moyens-là, ça ne résoudra pas nos problèmes. Mais si on fait confiance à Dieu, Dieu pourvoit. Et il se retrouve que, quelque temps plus tard, on sort de ces problèmes et on se dit, mais comment je m'en suis sorti? Comment ça s'est passé? Par où c'est arrivé? Je n'ai pas tout compris. Dieu pourvoit. Dieu veille. Gardons en tête que Dieu pourvoit, qu'il a les moyens de pourvoir, que la terre lui appartient, et il veut qu'on garde toujours une place pour lui. Si le temps de nos épreuves paraît long, est-ce que cela signifie que Dieu a changé ses promesses? Notre foi peut et doit combler notre vision qui est bien souvent terre à terre. Dieu, lui, sera toujours fidèle. Patience et confiance sont les attitudes indispensables de la foi. Et Lévitique au chapitre 20, 25, toujours versets 23-24, il est dit enfin ceci. La terre ne sera point vendue à perpétuité, car la terre est à moi. Car vous êtes chez moi comme étranger et comme habitant. Dans tout le pays que vous posséderez, vous accorderez le droit de rachat pour la terre. Dieu possède tout. Ce que nous possédons est pour un temps. Alors il y a de nombreuses autres lois et instructions qui sont données dans l'Ancien Testament, des lois sociales sur la propriété, l'héritage, le mariage, le divorce, la circoncision, le respect du jour du repos, comment le faire, les lois sur les aliments, les lois de pureté, les fêtes, le jour du grand pardon, Pâques, fête des tabernacles, fête des semaines, etc., les sacrifices, les offrandes, l'instruction pour le sacrificateur et le sacrifice, instruction pour les dîmes, instruction concernant le tabernacle, le temple de Jérusalem, le Saint des Saints contenant l'Arche de l'Alliance, l'instruction pour la construction des divers autels, instruction pour l'avenir où Israël exigerait un roi, beaucoup de textes de loi. Il en a été compté, j'ai lu quelque part, plus de 600. Je vous passe les détails. Mais ça correspond aux besoins que l'homme a d'encadrer son fonctionnement avec beaucoup de contraintes parce que naturellement, il ne peut pas respecter ses lois de lui-même. Donc, il y a toujours des cas particuliers qu'il faut relever. Je veux dire, comme exemple, chez nous, notre code du travail contient plus de 10 000 articles de loi. C'est cette habitude naturelle qu'on a de détourner les lois à notre profit qui oblige à légiférer. C'est tous les cas particuliers qu'on peut rencontrer. Alors, voilà. Pourquoi la loi? Michée nous dit ceci, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Cette direction biblique met en lumière non seulement l'importance de la justice, mais celle de la miséricorde et de l'humilité devant Dieu. Marche avec ton Dieu. Et la loi, effectivement, nous fait prendre conscience de notre péché. Sans la loi, nous n'avons pas de référence commune concernant ce qui est bien et ce qui est mal. Avec la loi, nous arrivons à saisir notre incapacité à respecter, la respecter, bien que nous la trouvions bonne. Elle se trouve souvent sur notre chemin pour nous empêcher d'obtenir ce que nous désirons égoïstement. Et c'est à ce moment-là, souvent, que nous nous détournons et montrons notre péché. Quand on veut prendre ce qu'on désire sans respecter les règles de Dieu. La loi veut nous permettre de vivre en harmonie en société. La loi régit toutes les relations entre les gens et entre les gens et Dieu. afin de les rendre vivables et agréables. Son but est de nous faire prendre conscience de ce qui est bien et bon, pas selon nous, mais selon Dieu. Cependant, l'homme naturel a quand même des difficultés pour se soumettre à ces contraintes. C'est pour cela qu'il y a des sanctions, afin d'avoir envie de respecter les lois à cause de la peur des sanctions. La loi nous révèle la volonté de Dieu. La loi vient de Dieu. En cela, elle nous révèle que c'est sa volonté qui est exprimée par l'intermédiaire de cette loi. Pour le croyant, c'est aussi une connaissance à laquelle on peut se référer en permanence. Pour savoir ce que Dieu approuve, vous savez, quelquefois, on ne sait pas où on en est. C'est bien de regarder. C'est un enseignement disponible pour chacun. C'est aussi une lampe sur notre chemin. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on n'est pas condamné éternellement si on manque parfois le respect de certaines choses, parce que nous sommes déjà sauvés. Nous sommes déjà justifiés. Et ce qui est mal chez nous a déjà été réglé. Et dans notre cœur, il est mis la possibilité et la force de respecter les choses qui sont dans la loi, mais plus loin que la loi, chose qu'on abordera la semaine prochaine. Le Saint-Esprit nous y sensibilise à cette loi afin de construire notre sanctification, de nous permettre de nous retrouver en accord avec Dieu. Et c'est lui qui nous conduit pour petit à petit respecter. Parfois, on se retrouve à respecter des tas de choses sans se rendre compte qu'on est en train de les respecter, parce que notre nouvelle nature prend le pas sur notre vieille nature. La méditation de la loi nous nourrit des choses de Dieu. Notre mentalité s'en trouve transformée de plus en plus à l'image du Christ, qui lui a dit que tant que la terre et l'univers qu'on connaît existent, la loi ne sera pas changée. Les promesses de Dieu, quant à son désir de nous bénir, sont un encouragement à persévérer, à mieux connaître ce qu'il aime et ce qu'il veut que l'on respecte au fond de notre cœur. Et en même temps, c'est une référence qui permet aussi de ne pas nous laisser aller, de rester vigilants, et de chercher toujours à être rempli du Saint-Esprit pour justement marcher droit. Et avec Jésus, effectivement, nous entrons dans la grâce. Nous sommes devenus libres. Nous ne sommes plus sous la servitude de la loi. Le respect de la loi n'est plus un moyen de nous justifier devant Dieu. Vous savez, on ne peut pas arriver en disant « Mais Dieu, j'ai respecté ceci, j'ai respecté cela, j'ai fait tout ça. Regarde, je suis quelqu'un de bien. » Ça ne sert pas à ça. Ça ne sert pas à ça. Jésus est déjà passé par là. Je suis quelqu'un de bien, non pas parce que j'ai fait quelque chose de bien, mais parce que Jésus est passé par là et que je crois que ce que Jésus a fait, j'en suis au profit. Hein? Je profite de ce que Jésus a fait et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là entre effectivement en œuvre la grâce de Dieu seul, qui nous restaure dans notre dignité devant Dieu. Et notre obéissance maintenant ne devient pas une obéissance subie, mais une obéissance volontaire. Parce que nous aimons Dieu et que nous aimons Jésus et que nous avons envie de respecter des choses qui autrefois étaient des obligations, des contraintes, des privations et des choses qu'on n'aimait pas. Mais maintenant, c'est différent. Et effectivement, Dieu nous équipe pour être capable de faire ça. Et par rapport aux contraintes de la vie, Jésus nous rappelle « Recherchez la justice et le royaume de Dieu au-dessus de toutes choses. » C'est ce qui devient primordial. Alors je voudrais terminer sur l'esprit de la loi, ou plutôt l'esprit et la loi. Dans Galates, il est dit ceci « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. » Il y a un lien entre les deux. Ça peut fonctionner. Paul, dans cette réflexion, rappelle indirectement l'importance de la loi comme référence. La loi n'est pas contre ces choses. Comme il a été évoqué au début de ce message, les lois que nous avons partagées ce soir sont peut-être dures, mais sont-elles injustes? Et nous pourrions même nous poser cette question, pourrait-elle être plus juste? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Nous aborderons peut-être un peu plus dans cet aspect-là, cette tournure d'esprit-là, mardi prochain. Merci pour votre écoute.
Merci.